France Inter. France Inter. Le 18-20, François Geffrier.
Une semaine en France, dans une France de la débrouille, celle de la récup, de la seconde main, celle qui achète et vend sur des plateformes internet, les vêtements en particulier, mais plus largement tout ce qui peut être nécessaire au quotidien, du lit bébé à la cafetière. Les vide-greniers, une de nos passions françaises, sont plus que jamais incontournables au printemps, et puis l'été, et puis un peu toute l'année en fait. Il faut dire que l'inflation a marqué les esprits dans cette période de sortie du Covid et de début de la guerre en Ukraine. La façon dont les Français consomment évolue massivement. Le marché de la seconde main a une croissance à deux chiffres, 12% par an, un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros au dernier pointage. On parle donc d'une économie de la débrouille. Chaque mois, un Français sur cinq vend à des particuliers via Vinted, Le Bon Coin, eBay ou encore Rakuten. Et il y en a d'autres, on va le voir. Cette économie circulaire permet aux Français de booster leur pouvoir d'achat, relève la Fondation Jean Jaurès. Il y a des motivations écologiques aussi, réemployer plutôt qu'acheter du neuf. Une semaine en France avec ceux et celles qui font et qui analysent cette débrouille du quotidien.
Le 18-20... François Geffrier.
On va tout de suite être extrêmement concret. Tout le monde ne pratique pas cette économie du partage. Vous allez nous éclairer, Hervé. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Hervé Michel, vous avez 72 ans, vous êtes à la retraite depuis une dizaine d'années et vous êtes ultra connecté. Vous vendez 2 à 3 objets par semaine, c'est ça?
Oui, minimum. Ça dépend des périodes. Là, je suis sur une bonne tendance, mais c'est à peu près ça dans la moyenne annuelle. Ouais.
Mais alors, vous vendez quoi et vous vendez comment?
Alors, je vends à peu près tout ce dont je n'ai plus besoin. Vous savez, quand on a passé une vie riche de voyages, comme moi, j'ai beaucoup voyagé, j'étais dans l'international, c'était mon métier. Et ensuite, quand on a aimé collectionner, j'ai collectionné beaucoup, on se retrouve à mon âge avec des tas de choses chez soi et on n'en a plus forcément besoin. Et en plus, il se trouve que les générations, les jeunes générations, moi j'ai des enfants, ne sont pas forcément intéressés par ce que vous avez accumulé. Il n'y a plus de transmission. Et donc, on se retrouve avec plein de choses chez soi dont on n'a plus forcément besoin. Et donc, j'ai trouvé les plateformes de partage me servent bien pour vendre.
Et donc j'imagine qu'avec ce raisonnement que je suis parfaitement, vous devez passer quasiment votre temps à scanner un peu visuellement votre appartement, en disant tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en vente? C'est quoi les objets en question? Vous nous dites j'ai beaucoup voyagé.
Alors, j'ai rapporté pas mal de choses d'Asie à une époque où les gens n'y allaient pas forcément. Moi, je suis allé en Asie dans les années 90, très souvent, et j'achetais plein de choses en Chine, au Japon, en Corée du Sud et ailleurs. Ça peut être des tas d'objets asiatiques, et aujourd'hui, c'est très à la mode. J'ai collectionné des bandes dessinées, figurez-vous. Donc, je me suis retrouvé avec des centaines de bandes dessinées.
Et ça marche bien en ce moment.
Oui, ça marche bien. Là, j'ai vendu hier encore sur Katawiki un très bel ouvrage sur Tintin. Et là, j'en ai 2 qui partent ce soir, normalement. Donc, voilà, ça fait... Je veux dire, en fait, l'intérêt de ces plateformes, c'est que... Enfin, moi, c'est ma philosophie. Elles ont 3 intérêts. Le premier, c'est que vous faites plaisir à des gens qui cherchent des choses qui vont pas forcément mettre les moyens pour les acheter neuves. Donc, elles les trouvent chez vous, elles sont contentes. La deuxième chose, c'est que ça fait de la place chez vous, ça débarrasse. Troisièmement, ça fait des revenus un petit peu marginaux, mais ça fait des petits revenus qui sont sympathiques à obtenir. Et il y a même un quatrième intérêt, mais vous l'avez cité dans votre introduction, c'est l'économie circulaire. Les choses circulent et il y a un côté écologique à se débarrasser des choses dont vous n'avez plus besoin et dont d'autres personnes peuvent avoir envie.
Alors, vous l'avez évoqué subrepticement, mais je vais mettre les pieds dans le plat. Hervé, vous parlez de revenus sympathiques. Cette activité, ça peut vous rapporter combien chaque mois?
Écoutez, c'est compliqué à dire parce que c'est très variable. Mais d'abord, il y a une activité permanente. Je vous dis encore ce matin, en fin de matinée, ça peut être 2, 3, 400 euros par mois, quelque chose comme ça.
Donc, si vous le faites depuis une dizaine d'années, ça commence à faire un vrai chiffre d'économie, en tout cas de choses que vous avez pu recycler dans cette économie circulaire, faire un peu arrondir vos fins de mois, quoi.
Oui, alors je le fais depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années, mais ça a pris une ampleur récemment qui n'était pas celle qui existait il y a 5-6 ans. Quoi.
Parce que vous avez plus de temps, parce que la demande augmente et vous dites tout ce que je vends, enfin tout ce que je mets en vente, c'est cool.
Alors, la demande augmente, c'est évident. Et là, on l'a pu le sentir, je pense que tous les gens comme moi qui vendent sur toutes ces plateformes, moi je vends sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Katawiki, sur la plateforme même maintenant de Facebook, on a pu voir l'embouteillage des transporteurs à Noël. Moi, j'ai des envois que j'ai faits juste avant Noël qui ne sont toujours pas arrivés aujourd'hui.
Alors, en plus, il y a eu les problèmes de la Poste avec des cyberattaques qui n'ont pas forcément facilité les choses. Il paraît que vous êtes tellement doué pour vendre sur Internet, Hervé, que vos amis, vous êtes devenu un peu leur agent commercial.
Oui, alors c'est vrai que je deviens, comme j'ai du temps et que j'aime ça, et que je pense que je n'y prends pas trop mal, c'est vrai que je commence à vendre pour des amis, pour de la famille, et c'est vrai que des gens me font appel maintenant. Et donc, je vends pour d'autres, exactement. Alors, j'en fais pas une activité à temps plein, bien sûr, mais ça les satisfait et ça m'occupe. Voilà, donc c'est bien.
Et oui, parce qu'il y a un savoir-faire derrière, il faut faire des photos, des fiches.
Mais merci. Vous avez parlé de la Poste à l'instant, mais la Poste, à mon grand regret, la Poste n'a pas vraiment pris, la Poste qu'on connaît, là, n'a pas pris le virage du transport aussi rapidement que d'autres. Alors ça y est, elle a pris le train en marche, mais les transporteurs font un travail incroyable, que ça soit Mondial Relais, Vinted Go, la Poste maintenant, et c'est vraiment un outil technologique hyper au point pour transporter tout ce que vous pouvez mettre en vente et ce que vous expédiez.
Et on vous sent passionné en tout cas, Hervé. Merci beaucoup Hervé Michel en direct sur France Inter. Et bonne vente alors ce week-end et toute l'année. Une semaine en France, dans la France de la débrouille. Deuxième exemple, on va sortir du studio. Nous voilà dans Lyon, à Auxerre, où Martin a choisi de devenir pet-sitter. Comme il y a des baby-sitters, pet-sitter c'est celui qui garde les animaux de compagnie. Le marché est important en fait, hein, car les Français sont les champions d'Europe si on regarde le nombre de chiens et de chats dans nos maisons et nos appartements. Alors Martin, lui, est un commercial de 36 ans, il le fait pour arrondir ses fins de mois. Notre reporter l'a accompagné au moment de sortir pour la promenade d'un petit chien dont il a la garde. C'est le micro ouvert de Sandrine Houdin.
Alors, 170, code... Interphone.
Oui, allô ?
Martin ?
Oui, je vous ouvre.
Deuxième étage et sur le palier, un accueil plutôt sympa. Bonjour, toi ?
C'est Athos, un berger australien. La propriétaire avait un petit souci de santé et elle m'a demandé si je pouvais m'en occuper, le garder le temps de sa convalescence, donc 3-4 jours.
4 jours, jour et nuit ?
Oui, jour et nuit, tout à fait.
Cahier des charges.
Tout simplement de le sortir pour ses besoins, de lui faire une petite promenade au moins une fois par jour et puis de le nourrir.
Une fois par jour seulement ?
Les grosses promenades. Hein, Athos, viens, viens, on va aller se promener, viens. Donc là, je vais lui mettre son harnais.
C'est pas une corvée ?
Non, moi j'ai toujours vécu avec des chiens.
Sauf quand il aboie.
Eh ben, il aboie pas, celui-là. Franchement, je ne l'ai même pas entendu une fois aboyer.
Allez, on y va.
Attends, Athos, attends.
Le petit chien, visiblement, est pressé de sortir.
Allez.
Et c'est parti. Il tire pas trop, là ?
Un petit peu, mais ça va.
Faites pas du ski nautique, quoi.
Non.
Ah, petite pipi.
Ouais.
Allez,
viens. À tous.
Vous avez la banane, là. On voit que ça vous fait plaisir.
Ouais, c'est sympa. Ça change après une journée de boulot. On prend l'air.
Alors, comment ça se passe ? Parce que je présume qu'ils prennent pas n'importe qui.
Ouais, effectivement. Alors, sur la plateforme Emprunte mon toutou, on a un questionnaire qui permet de voir, en fait, si... Déjà, je pense qu'on est normal, si on n'a pas des soucis psychologiques. Et ensuite, pour savoir si on est capable de gérer un animal avec donc des questions... Ça peut être de la logique ou ça peut être des questions purement pratiques.
Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il mordit, là ?
Ah, c'est un petit bout de bois. Il s'amuse avec un petit bout de bois.
Alors, comment fonctionne la rémunération Athos, par exemple ?
Alors, Athos, par exemple, c'est 20 euros la nuit. C'est moi qui ai fixé la rémunération. Donc, c'est le prix que j'ai fixé. Voilà, il y a aussi des options différentes. Si on doit promener un chien, c'est environ 10 euros de l'heure. Je vais au domicile, je vais promener le chien et je le ramène chez la personne. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir les clés, etc. Mais ça se fait.
Alors, au total, vous diriez en moyenne, combien par mois vous rapporte le petit ?
Le mois dernier, ça m'a rapporté 450 euros.
Pardon ?
Ouais, 450 euros au mois de décembre. J'avais un peu plus de temps étant donné qu'il y avait les vacances. Là, au mois de janvier, ça sera plus aux alentours de 200 euros.
Mais c'est complètement dingue. Ça veut dire que vous avez surtout fait des gardes chez vous ?
Ouais, tout à fait.
Et pet sitter seulement pour les chiens ?
Non, il y a aussi les chats. J'ai vu aussi qu'on pouvait garder des rongeurs ou des poissons.
Moi, j'ai vu une naque.
Ouais.
Vous pensez pouvoir garder un serpent ?
Un serpent, alors moi ça me dérangerait pas, mais ma compagne, franchement, impossible pour elle.
Et tout cet argent,
vous sert à quoi ? C'est quoi ? C'est pour les factures ? C'est pour les loisirs ? C'est les deux à la fois ?
J'avais pas trop d'idées, mais en fait, on part en Chine avec ma compagne. Bah, on s'est dit que ça pouvait nous aider à payer le voyage.
Quant à la question « Comment jongler entre horaire de boulot et pet-sitting ?», ce n'est pas si compliqué, explique-t-il.
Les chiens que je garde, je demande effectivement s'ils ont la capacité de rester seuls. Après, j'ai également du télétravail. Donc, de toute façon, je le sors le matin, le soir, quand je suis en télétravail, le midi.
Notre émission, c'est la France de la débrouille. Ça vous étonne qu'autant de Français se mettent à rechercher des petits jobs comme ça, en dehors de leur boulot ?
Non, ça m'étonne pas. Ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Ça permet aussi de, je sais pas, pouvoir acquérir de nouvelles choses ou pouvoir mettre un peu plus d'argent dans ses loisirs ou dans ses sorties. Donc, c'est pas forcément étonnant. Là, il est en train de manger un mouchoir. Allez, viens.
Bon, je vais vous laisser. Salut à tous. T'as pas été très poli, hein. T'as pas parlé à France Inter.
Bah ouais, il parle pas. Je l'ai jamais entendu non plus.
Donc, croquette maintenant ?
Ouais, c'est ça.
Eh bien, merci.
Merci Sandrine.
Merci à tous.
Merci à tous. C'était le micro ouvert de Sandrine Houdin. Sandrine Houdin, chaque semaine, dans Une semaine en France. Micro ouvert à Auxerre ce soir. Auxerre, sur la carte de France de la débrouille. C'est le thème de cette émission. Bonsoir, Maud Sarda.
Bonsoir.
Vous êtes cofondatrice et directrice générale du label Emmaüs. On connaît Emmaüs et ses entrepôts, qui sont des vraies cavernes d'Ali Baba. On trouve toutes sortes d'objets. Le label Emmaüs, c'est la version en ligne, tout simplement ?
Exactement. C'est un bric-à-brac géant, avec plus de 2 millions de produits uniques.
On y trouve... Alors, vous dites unique, on y trouve précisément ce qu'on trouve dans les entrepôts Emmaüs ou ce sont deux canaux séparés, des stocks séparés ?
C'est plutôt des stocks séparés, effectivement. Mais ce sont les structures traditionnelles d'Emmaüs, des ressourceries également, un petit peu partout sur le territoire, qui, dans tous les dons qu'ils vont recevoir, ils vont faire un tri. Une partie va sur le physique, la majeure partie, et une petite partie va être sélectionnée pour aller sur la plateforme Label Emmaüs.
Comment vous choisissez ceux qui vont en ligne ou ceux qui vont dans les entrepôts classiques ?
Il y a des produits qui méritent d'aller en ligne parce que ce sont des produits un peu de collection, un peu rares, vintage, qui sortent du lot et qui méritent d'avoir une exposition plus nationale que locale. Mais on a plus de 2 millions de produits. Donc on a aussi des centaines de milliers de livres à 3 euros en moyenne. Donc on a aussi des produits qui sont très abordables.
Oui, il y a des livres d'occasion, des articles de mode, des objets pour la maison, les loisirs, les enfants. Il y a de la tech aussi, avec des appareils reconditionnés.
Sous garantie.
Et sous garantie, c'est important. Une plateforme créée il y a 10 ans, si vous êtes encore là, c'est que ça marche plutôt bien.
Oui, on s'est bien développé depuis 10 ans. Après, ce n'est pas un long fleuve tranquille parce que ces dernières années, on a eu une concurrence très rude de l'ultra fast fashion, du low cost. Donc, on peut se dire que ce n'est pas la même chose d'acheter du low cost et de la seconde main Emmaüs.
Quand vous dites on a une concurrence très dure, vous avez eu vraiment une sorte de vague un petit peu qui vous a fait perdre quelques parts de marché, quelques ventes. Vous l'avez
ressorti ? C'est une concurrence qui s'est associée également à celle des plateformes de vente entre particuliers. Tout à l'heure, on a eu un témoignage d'une personne qui vend sur des plateformes comme Vinted, Le Bon Coin, etc. Et donc ça, l'explosion de ces plateformes de vente entre particuliers a aussi été une concurrence très rude.
Alors pendant qu'on se parle, je regarde en même temps sur la plateforme, il y a des horloges vintage éléphants, des assiettes décoratives, des flûtes à champagne en cristal, une lampe de table façon phare de moto, un vase, tout ça est photographié, référencé, ce qui prend du temps, contrairement justement aux entrepôts. C'est pas forcément évident quand on veut rester accessible d'avoir, comme ça, vous disiez, 2 millions de références et toutes bien référencées, documentées.
Et pourtant, le prix moyen d'un livre, c'est 3 euros, le prix moyen d'un vêtement, c'est 7 euros, le prix moyen de la déco, c'est 15 euros. Donc on a vraiment des produits qui sont très abordables, très économiques. Ce sont des personnes en insertion qui font tout le travail de référencement, de prise de vue des produits, de mise en ligne, de conditionnement des colis. Et c'est en fait une formidable école aussi pour développer de nouvelles compétences pour tout le public qu'on accueille chez Emmaüs, les compagnes, les compagnons et les salariés en insertion des ressourceries.
Et donc vous défendez vraiment ce modèle différent des plateformes entre eux. Le label Emmaüs, la vôtre, et ces grandes plateformes qui, à première vue, certaines, Vinted, vous l'avez cité, eBay, effectivement, Rakuten, proposent des produits qui peuvent sembler similaires. Mais vous dites derrière la machinerie, quand on soulève le capot, c'est vraiment très différent chez nous.
Déjà, j'ai envie d'insister vraiment sur les prix. Ce sont des prix très accessibles. Mais derrière, il y a aussi un service client qui n'existe pas sur des plateformes de vente entre particuliers. Je pense que les phénomènes de fraude se multiplient quand même sur Vinted. Ça a fait la une des médias dernièrement. Là, c'est impossible sur Label Emmaüs. Il y a vraiment des vraies personnes qui ont trié, qui ont pris de la peine pour mettre en ligne des produits, qui les ont réparés. C'est aussi des produits durables, parce que sinon, ils ne passeraient pas le filtre du tri Emmaüs. Donc, ça va peut-être être des prix dans l'imaginaire des gens. Ils vont se dire, c'est de la seconde main, et pourtant, c'est le même prix que du neuf fast fashion, low cost. Mais c'est des produits de bien meilleure qualité. C'est de la seconde main, mais c'est des produits de bien meilleure qualité que le low cost.
Et alors, le label Emmaüs, vous vous définissez comme un e-shop militant, une boutique en ligne militante. Et c'est vrai qu'Emmaüs est historiquement solidaire. Vous diriez que les grandes plateformes dont on vient de parler, elles changent un peu ce qu'il y a dans la tête des consommateurs. Il y a des valeurs qui s'effacent.
C'est une marchandisation poussée à l'extrême, tout de même, de l'occasion. Alors, je ne jetterai pas la pierre, évidemment, à toutes les personnes qui ont besoin de ces revenus, et c'est normal, c'est l'histoire en marche, qu'il y ait cette revente de particulier à particulier. Après, je pense que si on n'a pas forcément besoin de toutes ces ventes, on peut aussi se poser la question, est-ce que je peux continuer à donner, tout de même, à la solidarité.
Oui, c'est la question du don qui est importante, puisque vous, c'est votre, la source des produits qui viennent chez vous, c'est le don, ce qui n'est pas le cas, évidemment, quand on vend.
Bien sûr, ce sont que des produits issus des dons. Il faut se rendre compte que le mouvement Emmaüs et tout le mouvement des ressourceries, c'est quand même des centaines de points de vente partout en France qui accueillent des milliers de personnes en situation de très grande difficulté, de très grande exclusion. Il n'y a quasiment pas de subventions publiques ni d'aide privée. S'il n'y a plus de dons matériels pour qu'on puisse revendre et financer toute l'action sociale, c'est un pan entier de la solidarité française qui s'effondre aussi. Et enfin, les plateformes de vente entre particuliers, il faut se poser la question aussi de l'actionnaire derrière. C'est quand même souvent des fonds d'investissement mondiaux qui sont pas français, qui sont à l'extérieur de nos frontières. Il faut regarder où vont les bénéfices. Nous, 100% de nos bénéfices sont réinvestis dans les réserves de l'entreprise, parce que c'est une coopérative. Donc ça appartient vraiment à toutes les parties prenantes de cette activité.
Merci beaucoup, Maud Sarda. Donc, le label Emmaüs, et j'invite les personnes qui nous écoutent, surtout s'il y a des chineurs, à aller jeter un œil sur vos objets en ligne. On le redit, il y a 2,5 millions de références. Vous êtes sur France Inter, c'est vendredi, vous écoutez Une Semaine en France. Je vous présente l'équipe de l'émission avant une première parenthèse musicale. Charline Legris à la rédaction en chef, avec Benjamin Ducy à la programmation et Juliette Gou à la réalisation. Fabrice Desmas, Philippe Duclos, Mélissa Etroit à la technique. On se retrouve juste après avoir écouté Keren Ann et son titre Que la vie est belle.
Le vent souffle froid devant ta porte. Je me demande si tu regrettes la chaude lueur du vin, les feuilles mortes entre tes larmes de poète. Mais que la vie est belle, est-ce que tu t'en rappelles? Parfois quand tu te révèles, que la vie est belle, bien que surréelle.
Sur France Inter, que la vie est belle, c'était Keren Ann.
France Inter, le 18-20.
Alors on parle de la France de la débrouille, Corinne Audouin s'est débrouillée pour nous le raconter à sa façon. Bonsoir Corinne.
Bonsoir François.
Cette économie souterraine en quelque sorte, elle a toujours existé?
Oui, soyons fous, on peut faire remonter ça finalement au paléolithique avec les premiers échanges d'objets entre tribus nomades. Alors plus près de nous, il y a la figure du colporteur qui arpentait encore les campagnes jusqu'aux années 40. Vendeur ambulant mais aussi pro du recyclage. Cette habitante de la Creuse se souvient.
Ben il vendait tout. Il vendait de l'huile, il vendait du café, il vendait du sucre, il vendait de la sucrerie, des bonbons, il vendait tout. Il amassait des vieux chiffons, les pots de lapin, et toutes les pots. En arrivant, on faisait pots de lapin, pots de lapin. On vendait tout pour faire quelque chose.
Voilà, on vendait tout, témoignage recueilli par Issy Creuse.
J'adore les pots de lapin.
Absolument. Alors après-guerre, les 30 Glorieuses voient l'avènement de la société de consommation. C'est l'ouverture des premiers supermarchés, la publicité, le marketing qui stimule la fièvre acheteuse. Mais sous le capitalisme et l'économie de marché, eh bien, il y a toujours cette économie de base qui est théorisée par l'historien Fernand Braudel.
Une zone d'opacité, souvent difficile à observer faute d'une documentation historique suffisante, s'étend au-dessous du marché. C'est l'activité élémentaire de base que l'on rencontre partout et qui est d'un volume tout simplement fantastique. Cette zone épaisse au ras du sol, je l'ai appelée faute de mieux la vie matérielle ou la civilisation matérielle. Mais j'imagine qu'on trouvera un jour ou l'autre une étiquette plus adéquate pour désigner cette infra-économie, cette autre moitié informelle de l'activité économique, celle de l'autosuffisance, du troc des produits et des services dans un rayon très court.
Alors, c'est une lecture d'un extrait de Civilisation matérielle, économie et capitalisme, ouvrage majeur écrit par Fernand Braudel, paru en 79. Et c'est un concept toujours d'actualité, toujours discuté par historiens, économistes. Fernand Braudel qui observe, à partir de la crise économique de 73, eh bien justement, la résurgence de ces pratiques sous de nouvelles formes.
L'économie de la débrouille, Corinne, ça devient alors une façon de payer moins cher?
Oui, c'est une préoccupation essentiel face à l'inflation qui explose dans les années 70-80. Et les magasins de hard discount en sont le symbole. Le premier Lidl ouvre en France en 1990.
Le premier Lidl de Lorraine s'est installé il y a 15 mois environ, ici à Metz. 800 mètres carrés au pied des immeubles. On y vend des produits de base, allemands pour la plupart. Pas de marque, pas de luxe, peu de choix. On fait des économies sur tout. Ici, on ignore la carte bancaire. L'accent est mis sur un seul point, le prix. Conséquence, le consommateur se bouscule aux caisses, et cela sans publicité ni promotion.
Archive FR3 Lorraine. Alors cette nécessité de réduire les dépenses, eh bien, elle explique aussi le succès, on en parlait, des sites de revente, des vide-greniers, des braderies, de l'essor du bricolage, de la réparation. Mais d'autres motifs écologiques, idéologiques vont émerger, et c'est ce que montre une étude de la Fondation Jean Jaurès, parue en 2024. Illustration avec la pratique de l'affouage. L'affouage, c'est couper son bois, soi-même, sur un territoire qui ne vous appartient pas, mais on a le droit de le faire, pour se chauffer l'hiver. Et c'est un reportage d'ici, Pays de Savoie.
Parmi ces affouagistes, il y a Frédéric Dumont, leur président. Ça fait 30 ans qu'il vient en forêt récolter du bois.
Nos grands-parents y venaient, nos parents venaient.
Ce travail de bûcheronnage réalisé par des particuliers est autorisé depuis plusieurs siècles. À Aix-les-Bains, les premières traces écrites d'affouage remontent à 1732.
C'est une comtesse qui nous a donné le droit, à son décès, de récupérer le bois pour nous chauffer.
En février, les 14 affouagistes se répartiront 140 mètres cubes de bois, 10 mètres cubes par personne.
14 lots, 14 numéros, et à la fin, on tire au sort. Tout le monde l'aura rangé, tout le monde aura travaillé, c'est une collectivité.
Voilà, une pratique collective sans échange marchand et qui aide à l'entretien de la forêt, un beau cercle vertueux. L'économie de la débrouille, ce n'est donc pas que de la contrainte, et ça peut être aussi un choix, une alternative à la surconsommation. Et on peut même, François, y trouver de la poésie dans ces objets dont la société marchande ne veut pas, filmé ici par Agnès Varda.
Il y en a même qui sont difformes, forme de cœur.
Ah ben le cœur, je le veux.
J'étais contente. Je les ai aussitôt filmés de près et j'ai entrepris cet exercice périlleux, filmé d'une main mon autre main qui glanait des patates en forme de cœur.
Voilà, les patates en forme de cœur d'Agnès Varda, c'est dans Les Glaneurs et la Glaneuse, sorti, en 2000.
Merci beaucoup Corinne Audon. Je suis un peu déçu quand même que vous n'ayez pas trouvé d'archives du paléolithique, mais ce sera peut-être pour la prochaine fois.
Je chercherai, c'est promis. Que
l'économie de la débrouille, ça remonte à la... Merci beaucoup Corinne Audon, la France de la débrouille, qui nous occupe ce soir dans Une semaine en France. Mais ce n'est pas un objet flou ou insondable. On trouve un peu de littérature à ce sujet, comme celle de la Fondation Jean Jaurès, vous l'évoquiez Corinne, avec les études de l'OPSOCO, l'Observatoire Société et Consommation, dont vous êtes la directrice générale, Guénaëlle Gault. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez donc documenté l'ampleur de cette France de la débrouille et ses différentes déclinaisons. D'ailleurs, cette appellation englobe bien d'autres choses que les seules ventes de seconde main.
Oui, tout à fait. En fait, hein, il y a une réalité qui est un large éventail de pratiques. On retrouve effectivement ce dont on parle là, c'est-à-dire la revente entre particuliers et que le numérique a beaucoup boosté, mais c'est aussi tout ce qui est faire soi-même. Hein, on voit que les pratiques, l'autoproduction alimentaire est quelque chose qui progresse d'année en année. On fait aussi de plus en plus du bricolage. C'est la réparation, l'allongement de la durée de vie des objets, c'est les circuits courts, c'est les vides-greniers. Vous en avez parlé, hein, plus de 50 000 en France. Et puis c'est aussi le jobbing, vous savez, c'est-à-dire les services entre particuliers, là aussi, qui peuvent être aidés par des plateformes comme Allo Voisin ou d'autres encore. Et puis c'est bien sûr le hard discount ou l'ultra hard discount aussi, et la façon de se... c'est une partie de cette économie-là.
Et qu'est-ce que ça pèse? Est-ce qu'on a une idée du volume? Parce que vous dites l'autoproduction alimentaire augmente. À côté de ça, on sait aussi qu'on mange de plus en plus de plats ultra transformés, qu'il y a de plus en plus d'enseignes de vente à emporter de nourriture.
Oui, alors après c'est très compliqué sur le plan économique effectivement de voir combien ça pèse. On voit que en revanche c'est des pratiques cumulatives, c'est-à-dire qu'on peut avoir recours à toutes ces pratiques mais continuer évidemment tout à fait dans l'univers marchand. Oui. Hein, donc nous ce qu'on voit c'est la pénétration de ces pratiques auprès des Français. Hein, le fait par exemple qu'un Français sur 5 vend régulièrement ou achète des vêtements en ligne, que les plus jeunes le font davantage, que effectivement, il y a une augmentation de tous ces événements que sont les vides-greniers qui concernent plus de 30% de la population, que les gens font par exemple, on vient de passer les fêtes, de plus en plus de cadeaux de Noël aussi d'occasion ou fait main. Et ça, en fait, on le voit de plus en plus. Quant à savoir effectivement ce que ça représente et économiquement, ça c'est un peu compliqué à mesurer.
Et tout ça est devenu aussi, c'est devenu OK, j'allais dire. C'est, on a le droit, d'un point de vue vis-à-vis des autres, de faire un cadeau de seconde main à Noël, par exemple, puisque vous prenez cet exemple. C'est vrai que c'était il y a à peine un mois.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est plus du tout quelque chose qui est dévalué, qui est gênant, qui est justement parmi ceux qui ont fait des cadeaux de seconde main. On voit qu'il y en a une majorité qui disent l'avoir fait, en fait, très très ouvertement. Et en fait, c'est plus du tout quelque chose qui est. C'est plutôt du consommer très malin et que du consommer déclassé.
C'est ça. On est dans une économie de l'astuce, du bon plan. Et d'ailleurs, on entendait tout à l'heure dans l'archive de FR3 parler du premier LIDL, donc Lidl. Oui. Et c'est beaucoup ça aujourd'hui qui cardonne avec ces enseignes-là. On pourrait citer Aldi, on pourrait citer Action Normal. C'est le côté, chaque semaine, des choses un peu nouvelles qui seront sympas et que d'autres gens autour de moi n'auront pas. Je voudrais revenir à aussi peut-être une des causes du succès de tout ça. C'est l'inflation qu'on a eue entre la sortie du Covid et le début de la guerre en Ukraine. Hausse des prix de l'alimentaire, de l'énergie. Vous soulignez dans votre étude une crainte de smicardisation, c'est-à-dire...
C'est-à-dire, c'est vrai que ce qu'on voit, alors il y a eu effectivement conjoncturellement le pic inflationniste hein, 2023-2024 qui signifiait par exemple une augmentation de plus de 20% sur les produits alimentaires qui sont des produits vraiment de la vie courante, sur l'énergie également. Et sur le long terme aussi, sur le plus long terme, on observe un ralentissement aussi du pouvoir d'achat de façon plus structurelle. Et ça, en fait, ça a un impact sur une partie de la population que sont les classes moyennes inférieures, les salariés qui sont qualifiés mais peu protégés, souvent des âges intermédiaires aussi qui ont des charges fixes comme le logement ou les enfants, et ce sont pas des personnes qui sont pauvres, mais c'est le sentiment c'est des personnes qui ont le sentiment de glisser en fait. Donc le fait et ça c'est un moteur puissant de la débrouille, c'est-à-dire on anticipe la perte de statut en fait ou d'un statut avant même qu'elle le surveille, et la débrouille c'est une réponse à l'inquiétude de ce déclassement là.
On parlait un peu avec nos invités précédents de l'argument écologique, à la fois avec Michel, avec Hervé, qui vend sur Internet toutes les semaines, et puis avec la cofondatrice du label Emmaüs. Et à la fois, celle-ci, Maud Sarda, nous disait qu'elle était assez pessimiste sur les valeurs des grandes plateformes chinoises ou américaines qui progressent. Comment vous voyez un peu la lutte entre ces deux forces-là ?
Oui, alors c'est compliqué parce que en fait c'est vrai qu'on voit que le prix c'est le principal moteur évidemment de cette économie de la débrouille là, mais pas seulement. Et c'est-à-dire qu'on voit en fait une convergence qui est forte entre cette nécessité économique, sans doute le premier motif, mais aussi alors il y a une sensibilité écologique diffuse, mais je dirais plutôt qu'il y a une aspiration à un autre modèle aussi de consommation. C'est-à-dire que comme le disait très bien d'ailleurs Corinne Audouin, c'est-à-dire qu'il y a un rejet de la surconsommation pour certains Français, il y a cette volonté de une critique du système marchand, la volonté d'être malin, une forme de philosophie de vie aussi, reprendre comme la foi, hein, c'est-à-dire c'est aussi un moyen d'être fier de soi, de faire les choses soi-même, d'aller proche de la nature, etc. Le désir de reprendre la main sur ses choix. Donc c'est économique, mais c'est aussi ça. Le problème, c'est que en effet, il y a une forme d'ambiguïté, c'est-à-dire que pour certains, c'est s'extraire d'une logique de marché, et puis en même temps, c'est aussi une extension de cette logique de marché, d'une certaine manière, ce qui expliquait très bien Mozzarda.
Merci beaucoup, Genaëlle Gault, directrice générale de l'Observatoire Société et Consommation. Et tout de suite, dans Une Semaine en France, on écoute Supergrasse. Vous êtes bien à l'écoute de France Inter. C'est le 18-20 et très bonne fin de journée à tous. Alright, le groupe britannique Supergrass, c'était en 1995.
France Inter, le 18-20. François Geffrier.
Le multiplex des régions, l'actualité d'ici et d'ailleurs avec le concours des radios du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI Saint-Étienne-Loire, ICI Roussillon et ICI Alsace, Gabin Grulet, Stéphanie Emora et Pauline Boudier. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
On commence avec vous, Gabin Grulet. Chaque semaine dans cette séquence, la campagne des municipales. Et il y a du changement concernant le mode de scrutin pour les communes de moins de 1000 habitants. Plus le droit de rayer des noms sur les listes. Il faudra forcément présenter une série complète, avec d'ailleurs autant d'hommes que de femmes. Les habitants ne pourront plus panacher cette liste, donc. Et dans les petites communes autour de Saint-Étienne, Gabin, ce changement des règles est diversement apprécié.
Oui, dans les villages, on a toujours rayé les noms, modifié l'ordre des listes. Alors le nouveau mode de scrutin passe parfois mal. J'ai rencontré des retraités à Saint-Priest-la-Vêtre, 150 habitants. Pas question pour elles de changer leur habitude. Elles prévoient quand même de rayer les noms en mars. Et quand je leur dis que leur bulletin sera nul, ces habitantes répondent « tant pis, au moins on aura voté ». Parce que souvent, il n'y a qu'une seule liste, donc le panachage donnait un intérêt au vote. Le maire de ce village craint une plus forte abstention. D'ailleurs, lui n'est même pas sûr de pouvoir présenter une liste à cause de l'autre grand changement, vous en avez parlé, la liste complète, paritaire, autant de femmes que d'hommes. Beaucoup de maires de petites communes de la Loire ne trouvent pas assez de femmes. Une élue me dit « c'est déjà de plus en plus difficile de convaincre des personnes de s'engager ». Ça rajoute un critère. Et l'inverse aussi existe. Le manque d'hommes, par exemple, dans ce village d'une quarantaine d'habitants, la Chambonnie, à mi-chemin entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Au conseil municipal, il y a actuellement 2/3 de femmes. Le maire sortant doit aujourd'hui se séparer d'une adjointe et cherche désespérément un homme. S'il n'y a aucune liste dans une commune municipale, celle-ci risque la mise sous tutelle de la préfecture, puis la fusion si aucune solution n'est trouvée.
Gabin Grulet ici, Saint-Étienne-Loire. On part entre Perpignan et la sous-préfecture de Prades, Stéphanie Mora, pour la relance d'une ligne ferroviaire fermée il y a 18 mois depuis le déraillement d'un TER qui avait percuté un pont. Entre la plaine et la moyenne montagne, Stéphanie, la ligne va donc rouvrir.
Remise en service demain à 8h09 pour ce train du quotidien emprunté par 700 personnes chaque jour, des lycéens, des salariés qui travaillent dans la préfecture catalane et quelques touristes. Enfin ça, c'est quand le train roule. Sur les 10 dernières années, les TER sont restés à l'arrêt pendant 4 ans cumulés. Ah. 2 ans et demi suite au drame de Mias, cet autocar de collégiens percuté par un TER. Ce dernier accident qui a fait 5 blessés légers en juillet 2024, sans compter les multiples pannes dues à un matériel vétuste. À chaque fois, les usagers rassemblés en collectif ont dû batailler, manifester pour exiger la reprise de cette ligne qui désenclave le piémont pyrénéen et pourrait soulager le trafic voiture à l'ouest de Perpignan si elle était en service optimal. Bref, l'archétype de ces petites lignes au cœur de l'aménagement du territoire et qui coûtent, puisque actuellement la commune où a eu lieu l'accident et la SNCF se disputent pour savoir qui va payer la reconstruction du pont percuté par le TER.
Donc inauguration demain en présence du patron de la SNCF qui connaît plutôt très bien les lieux.
Oui, il n'est pas là par hasard, Jean Castex. Il fut maire de Prades pendant 12 ans et il revient souvent dans son fief catalan, la sous-préfecture, dont il continue de suivre avec beaucoup d'attention la vie municipale et actuellement, vous vous en doutez, la campagne électorale.
Stéphanie Mora, ici Roussillon. En Alsace, avec vous, Pauline Boudier, vous dressez le bilan du marché de Noël de Strasbourg. 3 500 000 visiteurs, un peu moins qu'en 2024, année record. Bon, ça reste un bon cru selon les organisateurs.
Oui, parce que ce palier autour de 3 millions de visiteurs semble être le nombre approprié pour permettre un marché de Noël optimal. Le président de l'Office du Tourisme, Joël Stéphane, parle d'une maturité de l'événement, mais aussi de soulagement, parce que le marché de Noël de Strasbourg ne peut pas vraiment s'étendre plus. Impossible de rajouter des stands dans les places, sur les places et dans les rues déjà bien remplies, et donc impossible d'accueillir dans de bonnes conditions des centaines, voire des milliers de visiteurs supplémentaires. Alors ça bouchonne encore beaucoup, certains week-end notamment de décembre, mais le phénomène n'est plus aussi mal vécu qu'à Colmar par exemple, où un collectif d'habitants a carrément publié une pétition en fin d'année pour dénoncer le surtourisme.
Justement Pauline, est-ce que ce marché attire aussi des Strasbourgeois ?
Il semble reprendre possession de l'événement, oui, puisqu'il représente la moitié des visiteurs de la dernière édition. Les organisateurs se félicitent de ce chiffre, signe pour eux d'un marché plus solidaire, revenu aussi à des stands jugés plus authentiques. Ça faisait partie des demandes faites pendant la période de Covid-19 par 2 collectifs d'habitants. Mais le marché de Noël de Strasbourg attire évidemment beaucoup de touristes internationaux, allemands et américains d'abord, mais aussi de plus en plus d'Espagnols.
Pauline Boudier, ici Alsace, merci à tous les trois pour ce multiplex des régions dans une semaine en France.